Merci infiniment, Jean-Marie, de m'accueillir dans ces séances de l'invité du mercredi. Cela fait déjà plusieurs années. Un très, très grand merci. Je vais beaucoup vous décevoir, donc je me permets de vous prévenir à l'avance, pour que vous n'attendiez pas trop. La première, je ne suis pas sûr d'amener de l'optimisme, ou alors du moins, l'optimisme sera au second degré dans le cœur de chacun d'entre nous. La seconde chose, c'est que je vais manier le paradoxe. Et avec mon introduction, vous allez tout de suite comprendre pourquoi je vais manier le paradoxe. Nous avons bien pris la précaution, dans le programme c'était bien indiqué, après-demain, la cité de Dieu. La cité de Dieu, c'est écrit en italique, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'ouvrage. Il ne s'agit pas de dire qu'après-demain arrivera la cité de Dieu, bien entendu. Alors donc, dans une introduction, nous allons voir de quoi il s'agit dans cet après-demain et dans quel itinéraire bizarre va nous conduire Augustin. Il n'est sans doute pas nécessaire de rappeler les circonstances précises de la rédaction de la cité de Dieu. Né au cœur de la province romaine chrétienne de Numidie, le 13 novembre 354, Augustin a vu grandir l'empire chrétien jusqu'à son sommet, sous l'empereur Théodose le Grand, qui laissa à sa mort l'empire à ses deux fils, à Honorius l'empire d'Occident, à Arcadius l'empire d'Orient. Mais déjà depuis quelques siècles, comme nous le savons tous, l'empire avait révélé sa fragilité aux frontières. Le concept de citoyenneté s'était trouvé considérablement élargi par l'édit de l'empereur Caracalla, et nous nous souvenons que les aléas se succédant, il y a eu une grosse querelle qui a opposé, dès le début des années 400, le maître de la milice, Alaric, qui, comme vous savez, est un prince de la dynastie des Baltes, de confession chrétienne arianiste, et le régent d'Occident, le vandale Stilicon, de confession catholique nicéenne. Et vous savez tous que, de négociation en négociation, nous avons abouti au sac de Rome le 24 août 410. 24 août 410, il est commode, j'allais dire malheureusement commode, de nous représenter ce que pouvait être cette date dans l'imaginaire, et comparer, si vous voulez, au 11 septembre. Alors, pour un Romain, 24 août, on peut l'écrire en tiret comme si c'était le 11 septembre. Le lendemain, enfin pas tout à fait le lendemain, mais le 27 août, la vie a repris son cours, exactement comme le 12 septembre, la vie a repris son cours, mais l'imaginaire a changé. Nous savons qu'avant cette date, Augustin avait eu en projet de composer une grande fresque théologique sur l'histoire des deux cités. Cela remonte à 385 à peu près. Mais assurément, ce sac de Rome, avec toute la charge d'imaginaire qu'il pouvait représenter, ainsi que les insistances de son entourage, l'ont poussé à concrétiser ce projet. Tout le monde le poussait. Et alors, demain, qu'adviendra-t-il ? Qu'adviendrait-il de la Roma aeterna, cette Rome à qui Jupiter avait promis l'éternité dans le chant 6 de l'Énéide, voilà qu'elle est incendiée ce 24 août. Et alors demain, que va-t-il se passer? Telle était donc la question qui hantait l'imaginaire collectif et qui a fait que l'entourage d'Augustin, païen comme chrétien, l'ont poussé à écrire cette fameuse cité de Dieu dont il rêvait depuis un certain temps. Malheureusement pour nous, à vrai dire, la question, et alors demain, cette question n'intéressait guère Augustin. Il ne se voyait guère en prophète, comme on en a vu à toutes les époques, voire encore aujourd'hui. Il cherchait à englober l'aujourd'hui dans une vision allant jusqu'à ce que nous pourrions appeler l'après-demain. L'après-demain comprenant la fin des temps. La fin des temps, l'eschatologique, avec ses fins dernières, avec ce jugement dernier, comme le dit la tradition catholique. Or, il se trouve que, consacrant les deux derniers livres de la Cité de Dieu, c'est-à-dire les livres 21 et 22, et surtout 21, à cet après-demain, Augustin évoque les anges damnés de l'enfer, leur châtiment, etc. Ce qui nous ramène très explicitement aux deux cités angéliques, c'est-à-dire aux livres 11 et 12. Mais précisément, nous sommes dans une sorte de proto-histoire, celle des deux cités angéliques et celle donc d'avant l'apparition de l'homme, avant l'apparition de l'humanité, une sorte d'avant-hier. Si bien que nous pouvons presque avoir recours à une grande ligne horizontale, je n'ai pas besoin de l'écrire au tableau, nous la figurons mentalement, une grande ligne horizontale pour figurer ce temps augustinien. Alors en allant de votre gauche à votre droite, ça donnerait avant-hier les deux cités angéliques. Hier, c'est-à-dire le début de l'histoire humaine, Adam. Aujourd'hui, le 5e siècle, demain, point d'interrogation, Augustin n'est pas un prophète, ça n'intéresse pas de savoir ce qui va se passer le lendemain du sacre de Rome. Et après-demain, donc à l'extrême droite pour Rome, les fins dernières. Aussi bien, pour entrevoir ce que serait l'après-demain d'Augustin, sommes-nous obligés de remonter à l'avant-hier. Si bien que par un paradoxe extraordinaire, la conférence, au lieu de s'appeler après-demain, elle aurait dû s'appeler avant-hier. Mais vous voyez pourquoi. Hein bon. Alors, la première partie, ce serait donc l'avant-hier. Ces deux cités angéliques. Il y avait donc deux cités angéliques avant l'apparition de l'homme. Et ces deux cités angéliques qui vont déterminer l'après-demain. Je ne sais pas si j'étais assez clair, veuillez m'excuser, me faire répéter tout à l'heure si besoin était. Alors, cette idée des deux cités angéliques, d'où sort-elle? Nous avons évoqué rapidement quelques-unes des traditions antérieures concernant tant la figure de l'ange que celle des cités angéliques. Et donc, nous allons faire un petit panorama qui sera sans doute très ennuyeux, mais qui me paraît nécessaire pour entrer dans le vif du sujet. Il y a là tout d'abord une très longue tradition. Donc, vous examinerez trois points. Une longue tradition, ensuite différents aspects de la théologie augustinienne, pour finir sur une sorte d'un essai d'interprétation. Une longue tradition. Alors bon, nous n'allons pas ici remonter aux traditions bibliques anciennes. L'histoire serait très longue, elle est passionnante. D'où vient cette notion d'ange, c'est tout à fait passionnant, c'est un peu long. Bon, rappelons simplement que c'est l'écriture apocalyptique qui allait faire peu à peu du monde angélique un ensemble de réalités spirituelles distinctes de Dieu, multiples et variées, constituant en quelque sorte une cour céleste de figures autonomes, voire révoltés comme s'ils étaient là, tantôt comme un relais vers une infinie transcendance que l'on n'ose plus appeler par son nom, tantôt comme un monde modèle à fonction d'exemplarité, tantôt comme un lieu qui permettrait de disculper le divin de l'immense misère du monde. Et dès lors, je pose la question. La figure de l'ange ne serait-elle pas par hasard la métonymie d'un voile à jamais persistant? Un voile plus ou moins transparent entre le divin et l'homme. Il y a un texte central pour notre propos qui est le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch, vous le connaissez sans doute, il n'est pas dans nos Bibles. C'est un texte qui a été rejeté du canon des Écritures au 1er et 2e siècle de notre ère. Or, c'est un cas qui a eu un retentissement énorme dans l'histoire ultérieure de la pensée religieuse et qui appartient à la littérature dite pseudépigraphique. Nous nous intéresserons plus particulièrement, mais très rapidement, rassurez-vous, à la partie du livre des notes qui s'appelle le livre des veilleurs, c'est le chapitre 6 à 36. Je donne la référence, si ça vous intéresse, vous pourrez le regarder. Qui évoque le péché des anges. Bon. C'est la reprise du mystérieux récit de la Genèse, et ce début de texte nous montre que la figure de Shemiazal, bon, le chef de 200 veilleurs ou anges du ciel qui descendus sur terre, s'unirent aux filles dont la beauté les avait séduits. Donc les géants, fuis de ces unions contre nature, répandirent mort et ruine sur la terre. Une clameur de supplication s'élève jusqu'aux cieux, aux archanges Michael, Sariel, Uriel, Raphaël et Gabriel, le Très-Haut donne pour mission de vaincre ces anges déchus, de les enchaîner et de les jeter dans les ténèbres, en attendant qu'au jour du jugement, ils soient précipités dans la fournaise. Alors, il y a un point capital ici. C'est qu'apparaît très nettement l'idée que le mal est l'œuvre initiale de figures qui sont esprits. Et cela, on l'oublie. Le mal ne vient pas du corps, le mal est l'œuvre initiale de figures qui sont esprits. Je continue le récit, non plutôt non, je ne veux pas le continuer, je vais arriver tout de suite à la fin, parce que c'est un petit peu long. Nous avons beaucoup de détails sur ces supplices des anges rebelles, etc. Ce texte est intéressant à connaître, parce que tout ce qu'on nous raconte sur la chute des anges, les anges déchus, ce n'est pas dans la Bible, comme vous savez, c'est dans ce chapitre du livre d'Enoch, et c'est cela qui a nourri tout l'imaginaire médiéval. Augustin connaissait parfaitement tous ces textes, donc voilà comment pouvons-nous situer la pensée augustinienne avec ses continuités et ses ruptures. Augustin n'avait pas attendu les livres 11 et 12 de la Cité de Dieu pour développer sa réflexion sur les anges. Il en avait parlé déjà dans les Confessions et au livre 11 de son commentaire sur la Genèse. Pour résumer, voici l'essentiel des questions et réponses suggérées par Augustin lui-même. Premièrement, l'existence des anges ne fait aucune difficulté pour Augustin. Héritier des longues traditions ainsi rappelées, à commencer par la tradition scripturaire. Mais leur nature ne va pas sans lui avoir posé quelques difficultés sur lesquelles nous ne saurions nous attarder ici. La nature, bon. En revanche, surgit cette question importante, qui paraît biscornue, mais nous en tirons des conclusions. Question. À quel moment de la création la cité des anges est-elle apparue? Au début du premier jour? Ou avant la lumière? Si tant est que les termes lumière et ténèbres renverraient à des réalités matérielles? Augustin, pour sa part, choisit d'identifier les deux cités respectivement aux ténèbres et aux lumières, ces deux cités d'anges, si nous avons considéré qu'elles sont désignées par les mots lumière et ténèbres. Deuxième point, la théologie de la chute et de la condamnation des anges déchus dans la filiation directe de l'apocalyptique juive ne fait pas non plus de doute pour Augustin. Que certains anges aient péché et qu'ils étaient précipités dans les basses fosses de ce monde devenu comme leur prison jusqu'à leur ultime condamnation au jour du jugement. Voilà ce qu'atteste clairement l'apôtre Pierre. Dieu n'a pas épargné les anges pécheurs, mais il a relégué dans les ténébreux cachots de l'enfer, les gardant pour le châtiment au jour du jugement. Fin de citation, c'est cité de Dieu. Bon. Il reste encore beaucoup de questions à résoudre. Pourquoi cette chute? Et quand a-t-elle eu lieu? Là, pourquoi? La cause directe de la chute des anges, ce n'est pas leur nature, puisque la nature du démon est bonne. C'est leur vouloir, plus précisément la perversion de leur volonté. Encore que l'Écriture n'en souffle le mot. C'est Augustin qui le dit. Autre enchaînement causal, La déficience, comme la mutabilité, serait la conséquence du fait que toute créature, y compris les anges, a été produite à partir du néant. Pourquoi cette chute ? Parce que, comme toute créature, les anges ont été créés à partir du néant. Pardonnez-moi, je pense que vous n'êtes pas très très convaincu par ce type de réponse. Quand a eu lieu ? Ah, à l'origine même de sa création, Genèse 1. Puisqu'assurément, il est dit dans le premier épître de Jean, le diable pêche dès le commencement. Cette opinion, dit Augustin, n'est pas sans fondement. Mais il reste bien des questions en suspens. Quelles sont les modalités de cette chute, etc., etc. Je passe parce que ça peut paraître ennuyeux. Alors, c'est un commencement, ou alors, c'est après un certain temps de béatitude partagée avec les autres anges. Mais ici encore, quelle forme a pris cette chute ? Ou bien encore, la chute a-t-elle eu lieu après la création de l'homme ? Encore plein d'hypothèses, etc. Certaines fragiles, d'autres plus étayées, au dire même d'Augustin. Nonobstant, cette aura de mystère, voilà déjà un ensemble de considérations toutes centrées autour de deux catégories d'anges, et deux précisément, il n'y a pas une, ni trois, qui vont permettre à Augustin de créer deux isotopies théologiques, si l'on peut dire, correspondant à, je cite, deux sociétés angéliques dissemblables et opposées. Voici ces deux cités. Je rappelle, je parle de cette aventure parce que je me permets de redire, n'est-ce pas, que l'après-demain d'Augustin ne se comprend que par rapport à cette aventure. C'est pour ça que je perds un peu de temps à parler de cette aventure. Donc ces deux cités sont, on peut les écrire en deux colonnes parce qu'il y a une dizaine de citations qui disent exactement la même chose. Il y a la cité des anges de ténèbres d'un côté, la cité des anges de lumière de l'autre. L'une est bonne par sa nature et mauvaise par sa volonté. L'autre est bonne par sa nature et sa volonté. L'une est gonflée d'orgueil, l'autre est jouie de Dieu. L'une habite les basses régions de l'air, l'autre les cieux des cieux. L'une est turbulente, l'autre est paisible, etc., etc. L'une bouillonne de désir de dominer, de nuire, l'autre porte secours avec clémence. Telles sont donc... Ah, voici quelque chose qui va nous interroger. Telles sont donc, je cite, ces deux cités angéliques, distinctes entre elles et opposées l'une à l'autre, où s'originent en quelque sorte les deux cités qui constituent l'histoire humaine. Je reprends cette phrase, c'est dans Cité de Dieu 11:33. Voici ces deux cités angéliques distinctes entre elles et opposées l'une à l'autre, où s'originent en quelque sorte les deux cités qui constituent l'histoire humaine. S'origine en quelque sorte, le latin dit quaedam exordia. Ces deux cités sont en quelque sorte l'origine. Ces deux cités, pourquoi en parler ? C'est parce qu'elles ont en fait une fonction de causalité exemplaire et d'homologie par rapport aux cités qui constituent l'histoire humaine. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire ? J'arrive maintenant donc au troisième point de cette première partie. Pourquoi Augustin se pose-t-il tant de questions sur les anges ? Pourquoi se demande-t-il est-ce que c'était le premier jour ? Est-ce que c'était le troisième jour ? Est-ce qu'ils sont tombés le premier jour ? Est-ce qu'ils sont tombés le troisième jour ? Cela peut paraître futile, cela peut paraître des questions un peu biscornues de théologiens un peu oisifs. En fait, à bien réfléchir, de quoi s'agit-il ? Nous nous souvenons de cette grande ligne horizontale que nous nous sommes représentés mentalement depuis l'avant-hier. C'est horizontal, hein, depuis l'avant-hier jusqu'à l'après-demain. je me permets de vous proposer quelque chose. Faites basculer cette ligne par une rotation dans le sens trigonométrique, comme on dit, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'avant-tiers va se trouver en dessous. Juste assez clair? Donc, parler de l'avant-tiers, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... Et puis, moi, c'est mon interprétation. Je ne prétends pas que ce soit Augustin qui le dise. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, parler de l'avant-tiers? Ça veut dire essayer de tenter de faire une archéologie du vouloir, une archéologie du désir. Cela veut dire que plus on remonte dans le passé pour trouver l'origine de la chute des anges, plus cela veut dire, peut-être, qu'il faut chercher au plus profond de l'archéologie du sujet les racines du mal. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne sommes peut-être pas tellement loin de ce que Kant appelle le mal radical. Le mal n'est pas à la surface. Il est quelque part caché au plus profond. C'est pour ça que cette faute des gens, je se demande, bon, c'était le quatrième, c'était le troisième, c'était peut-être le premier. Ce n'est pas un délire des théologiens, c'est peut-être une réflexion sur une archéologie impossible du vouloir dans sa faillibilité comme dimension constitutive de l'être. Et en plus, il ne va pas chercher ça chez Adam, il ne va pas chercher cela hier, il va chercher ça avant-hier. Vous vous rappelez notre ligne? Adam, c'est-à-dire l'humanité, c'est hier. Avant-hier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque l'homme apparaît, le mal est déjà là. Il y a une réflexion sur un mal déjà là, quelque part enfoui dans l'archéologie de l'être. Archéologie du désir, c'est la question obsessionnelle, lancinante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, excusez-moi, c'est moi qui interprète là. Hein. C'est moi qui fais basculer la ligne, c'est pas Augustin. Hein. C'est moi qui fais basculer la ligne parce que du coup, Augustin prend une signification. Ce ne sont pas des délires théologiens, c'est le soir du premier jour, le matin du quatrième, vous comprenez, c'est pas intéressant. Si on fait basculer, à ce moment-là, l'originel devient l'originaire. Et donc, je vais aller tout de suite, je vais aller presque dire à la conclusion, mais rassurez-vous, je n'ai pas tout à fait fini encore. Cela veut dire que si vous faites basculer dans l'archéologie la plus profonde, qu'est-ce qu'il y a? Il y a... Pardon, je vais vous dire en conclusion. Bon, alors donc, je reste à l'archéologie du désir, pardonnez-moi ce désordre, pardon Jean-Marie, pardon chers amis. Mais... Si vous vous souvenez, c'est Georges Didier Huberman qui disait un jour à la radio, c'est une phrase que je cite souvent, il m'a dit « Dans un de mes derniers ouvrages, j'ai écrit que l'on ne fait jamais que l'histoire du temps présent. » J'ai acheté ses derniers ouvrages, nulle part je n'ai trouvé cette phrase. Il n'en reste pas moins vrai que nous avons une vérité extraordinaire. Quand on parle de l'avant-hier, de l'après-demain, en fait, on ne parle que de l'aujourd'hui, hein, on ne parle que du présent. L'historien, quand il fait une histoire du passé, il ne parle que du présent, ce qui explique que beaucoup d'historiens, à 40 ans près, les historiens ne disent pas la même chose sur les mêmes faits, parce qu'en fait, ils parlent du présent. Hein, nous sommes bien d'accord. Et donc, c'est-à-dire que, à partir de cet avant-hier, nous sommes ramenés à l'aujourd'hui. C'est mon deuxième point. Alors, l'aujourd'hui, le premier point, c'était l'avant-hier sous le signe d'une archéologie du désir. Le deuxième point, je l'intitulerai l'aujourd'hui ou un aujourd'hui sous le signe d'une double contiguïté. J'ai pas dit contiguïté, hein, contiguïté. Alors, aujourd'hui, en fait, pour Augustin, vous le savez très bien, nous vivons dans un mélange des deux cités. Nous vivons dans un mélange des deux cités. Ce mélange est un terme obsessionnel dans tout le discours, tout le décours de la cité de Dieu. Il n'est pas inutile de... Plutôt, il n'est pas utile d'y revenir, mais il n'est peut-être pas inintéressant de remarquer qu'Augustin tient ce thème du mélange de la théologie manichéenne. Passons rapidement sur la vie de Mani le Vivant, qui est né selon les complices traditionnels le 14 avril 216 et a été supplicié le 31 janvier 277 et mort le 26 février suivant. Et arrivons à quelques points importants pour échapper aux caricatures habituelles tout à fait dommageables concernant le manichéisme. Il y a deux dogmes, comme vous savez. Le premier dogme, c'est le dogme dit des deux principes. Il y a deux principes. Le premier principe qui est Dieu, le second de la matière. Au lieu de parler, comme on fait souvent, de dualisme, il serait plus pertinent de parler de polarité. Le prince du royaume de la ténèbre est appelé le père de la grandeur, il est entouré de toute une cour céleste, etc. L'autre, le prince des ténèbres, est le maître d'une race de ténèbres qui est mal définie. Cette race des ténèbres, elle est définie... Excusez-moi, je n'ai que des tout petits flashs, hein, parce que nous n'avons pas le temps d'en parler en détail. Cette race des ténèbres est définie en latin par l'expression stirps, ça veut dire une souche, comme on dit extirpé, bon. Stirps tenebrarum. Sans faire spécialement du latin, nous savons que le génitif peut avoir, n'est pas seulement un génitif possessif, comme on dit le livre de Pierre, mais un génitif explicatif. C'est quoi cette race de ténèbres? C'est stirps tenebrarum. C'est cette racine qui est ténèbre. Et ici, nous retrouvons ce que nous avons dit tout à l'heure sur l'archéologie et le mal radical. C'est quoi ce royaume des ténèbres? C'est cette racine. Cette racine qui est en dessous du sol et qu'on ne voit pas. Cette racine qui est ténèbre. Là-dessus, Mani, excusez-moi, je réfléchis parce que je voudrais abréger. Là-dessus, Mani imagine que il y a, sous une forme classique, nous sommes dans un régime mythique, et donc il imagine qu'il y a deux royaumes, le royaume de la lumière au nord, le royaume des ténèbres au sud, donc pour comprendre cela, il faut se référer à l'apocalyptique juive, ce que je n'ai pas le temps de faire. Mais alors il dit, les deux royaumes se touchent, sont contigus, hein. Ils sont contigus. Alors, Augustin se pose une question. Alors, ils sont contigus. Alors, le point de contact, c'est une ligne, c'est une droite, c'est une courbe. Alors, il consacre 25 pages à examiner si c'est un point, c'est une courbe, c'est une ligne. Je pose simplement la question suivante. Il y a deux royaumes et pas un point de contact. Que ce soit droit ou courbe, ça n'a peut-être pas beaucoup d'importance. Il y a une frontière. Mais quand on est sur une frontière, on appartient à qui? La frontière, c'est quoi? La frontière qui sépare ces deux royaumes, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être le point d'articulation du regard. Ce point d'articulation où se place précisément l'homme. Parce que l'homme n'est dans aucun des deux royaumes, bien entendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et cela veut dire que cette frontière appartient aux deux royaumes, et l'homme qui se situe sur cette frontière pour regarder est un mélange des deux royaumes. Qu'est-ce que donc cette ligne lisière? Sinon la représentation figurée de l'ambiguïté tragique de l'existence, et qui plus est, de l'existence temporelle. C'est-à-dire la frontière exactement que l'imagination religieuse dessine entre le réel et le désir. La frontière serait bien l'expression plastique de la contiguïté, signe de la déchirure de l'âme exilée. Le deuxième dogme, c'est celui des trois temps. Vous connaissez l'histoire, c'est très long, je ne vais pas vous la raconter. Il y a trois... Le temps du monde se divise en trois temps, le moment initial, le moment médian et le moment terminal. Je passe sur le moment initial, les deux royaumes sont face à face. Dans le moment médian, dans le deuxième temps de l'histoire universelle, il y a beaucoup de périodes différentes, il y a un début, il y a ensuite une première guerre, ensuite il y a une œuvre démiurgique, ensuite il y a une seconde guerre, etc., etc. Je passe sur le détail, simplement pour signaler deux choses. La première guerre se déroule entre les puissances célestes, entre les puissances extraterrestres. La première guerre se déroule avant l'apparition de l'homme. Et donc, une partie du monde de la lumière, alors tout ça est fondé sur des petits extraits bibliques que je n'ai pas le temps de vous signaler. Et donc il y a le prince de la lumière envoie son fils qui est fait prisonnier des ténèbres, et donc qui va vivre dans un état d'emprisonnement, de souillure, d'oubli, de mélange, de prison, etc., etc. Mais qui finalement sera sauvé. Je répète, l'homme n'est pas encore là. Il y a donc, une fois de plus, comme dans les cités angéliques d'Augustin, une sorte de première histoire antérieure à l'apparition de l'homme. Une première histoire où il faut passer par un état de mélange, de souillure, d'emprisonnement, avant d'être libéré. Là-dessus va succéder une deuxième histoire avec la création de l'homme, mais qui va subir exactement les mêmes épreuves. L'homme est une parcelle de lumière qui va être engloutie dans un monde de ténèbres et qui va être emprisonnée dans un monde d'oubli. Alors qu'est-ce que ça veut dire en attendant d'être libéré un jour? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Ça veut dire, je suis obligé d'aller très vite, donc l'interprétation n'est peut-être pas très convaincante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'histoire humaine est la répétition d'une histoire antérieure. Je ne sais pas si je suis assez clair. Dans le monde céleste, il y a une première histoire où il y a un fils divin, un fils de lumière, qui est vaincu, emprisonné, qui va vivre dans les ténèbres et qui va vivre dans l'emprisonnement avant d'être libéré. C'est une première histoire. La deuxième histoire, c'est une histoire humaine qui recommence avec la défaite, l'emprisonnement, la souillure, avec des images qui font tout à fait penser aux images platoniciennes d'ailleurs, hein, de souillure, de boue, de bourbier, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons ici un avant-temps, comme l'aventure d'Augustin. Hein. Nous avons un avant-temps qui est peut-être la représentation imaginaire du transcendantal. Transcendantal au sens conscient, c'est-à-dire condition de possibilité d'existence. Ou pour être plus précis, le récit, c'est bien là le sens originel du mot « mythe », le récit constitue une réponse à la question de la figurabilité du discours sur le mal, sur un mal déjà là, un mal à la lisière de la responsabilité humaine. Autrement dit, nous avons déjà un deuxième discours ici. Mais en même temps, qu'est-ce que cela nous prouve? Cela nous prouve que le présent, qui est un état de mélange, n'est qu'une période transitoire. L'histoire humaine, elle est vectorisée, puisque la rédemption est déjà arrivée une première fois dans le monde divin. Donc l'histoire humaine est vectorisée, l'histoire humaine n'est pas un éternel recommencement. Si bien que cette théologie manichéenne de l'histoire s'ouvre sur l'aujourd'hui de l'espérance. Le rappel de cette tradition théologique a pu paraître un peu long, encore que j'ai beaucoup simplifié et abrégé, excusez-moi, mais il était nécessaire d'évoquer cette pensée si riche qui a marqué au moins 12 ans le développement de la réflexion augustinienne, à laquelle nous allons arriver maintenant, pour essayer de percevoir les parentés comme aussi bien entendu les écarts entre ses regards sur l'histoire. Que pouvons-nous dire de cette théologie augustinienne de la contiguïté et du mélange? Rappelons d'abord que établir une continuité entre les cités humaines et angéliques par le processus d'une causalité exemplaire et homologique, est-ce que ce ne serait pas pointer une contiguïté entre le moi et le non-moi? Je répète ce que j'ai dit parce que je n'ai sans doute pas été clair. Augustin nous disait, vous vous souvenez, l'histoire des cités angéliques, c'est une histoire dans laquelle s'origine l'existence humaine. Les anges, ce n'est pas nous. Or, le mal vient des cités angéliques. Alors, est-ce que ce n'est pas une manière de dire que le mal est à la lisière de leur... Non seulement il était déjà là, mais il est peut-être à la lisière de la responsabilité humaine. Est-ce qu'Augustin... Est-ce que ce ne serait pas déjà là pointer une contiguïté entre le moi et le non-moi? En second lieu, il faudrait redire à quel point dans la cité de Dieu... Le thème, quand je dis la cité de Dieu, bien entendu, c'est l'ouvrage. Hein. La cité de Dieu, le thème du mélange des deux cités est récurrent, voire obsessionnel. Dès les premières lignes, Augustin nous dit, je vais raconter l'histoire des deux cités, per mixtae, etc., qui sont mélangées jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'après-demain. Mélangées jusqu'à l'après-demain, ça veut dire que le présent, c'est un mélange. Or, comment illustrer cette idée du mélange? Là encore, il faudrait de longues séances pour en parler. Je prendrai juste un seul exemple. C'est dans la Cité de Dieu, livre 5, chapitre 18. Alors, c'est un texte facile à lire. Ça se trouve partout, la Cité de Dieu. Cité de Dieu, livre 5, chapitre 18. Augustin considère des grandes figures de l'histoire romaine. Alors là, il fait tout un catalogue, il y a Brutus, Torquatus, mais je vous épargne le catalogue. Ce qui est intéressant, c'est que ce catalogue ne suit absolument pas l'ordre chronologique. Pourquoi? Pour la bonne raison qu'Augustin recopie des catalogues tout faits dans des manuels qui servent de manuels de rhétorique. Vous voulez, pour les futurs avocats, vous voulez faire un discours sur la pauvreté. Bon, vous avez l'exemple d'un tel. Voulez-vous faire un discours sur l'amour filial? Vous avez l'exemple d'un tel. On ne regarde pas du tout l'époque, c'est vous avez là. Alors, Augustin recopie cela, et en recopiant cette liste, il recopie celle de Virgile, il recopie de moi. Bon, mais alors, qu'est-ce qui est mis en valeur ici? Qu'est-ce qui est mis en valeur? Nous pouvons classer ces grandes figures sous plusieurs rubriques. Par exemple, le devoir est plus fort que l'amour paternel. Brutus, Torquatus, Publius. La pauvreté désintéressée, c'est une valeur très importante. Le dévouement à la patrie aussi. Voilà autant de valeurs qui constituaient, comme on sait, des lieux communs de la diatribe cynique et Augustin. Mais Augustin a repris ces exemples très connus, c'est pas seulement parce qu'il les connaissait comme tous ses lecteurs, mais c'est parce que ses lecteurs les connaissaient comme lui. Je veux dire par là qu'à partir d'un patrimoine culturel commun, il va tirer une leçon originale. La finalité de ce catalogue des vertus anciennes, des vertus des païens, puisque tous ces personnages de l'histoire romaine sont antérieurs au Christ, hein. La finalité de ces exemples-là, elle est d'ordre moral et non pas historique. Ce long catalogue est introduit par des brèves réflexions qui, en fait, ouvrent sur une perspective théologique qui déborde largement la morale. cette commémoration est destinée à montrer que les valeurs romaines, illustrées par ces grandes figures, pouvaient en quelque sorte se laisser classer en deux séries. La première opposerait irréductiblement Rome à Jérusalem, la cité céleste. Augustin semble en effet valoriser la fermeté d'âme d'un tel, mais il perçoit dans leur motivation le désir de la gloire ou le désir démesuré de louange. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chez le même homme, une valeur éminemment positive et louable peut être entachée d'un vice fondamental qu'Augustin appelle cupiditas et cupido. Alors quand on sait que ce sont des péchés chez Augustin, cela veut dire que dans chaque homme, il y a un mélange de vertu et de vice. Cela veut dire, pour aller plus vite, parce que je ne veux pas trop attarder, cela veut dire que lorsque l'on croit accomplir un acte méritoire, peut-être est-ce par vanité que l'on fait. Inversement, lorsque on fait une erreur, peut-être qu'au fond, il y avait une intention louable. Et par conséquent, dans chaque, parmi tous ces personnages de l'histoire romaine, voici ce qu'il nous dit. Ces vertus qu'ont pratiquées les Romains pour la cité terrestre, si nous ne les avons pas pratiquées pour la très glorieuse cité de Dieu, que la honte nous aiguillonne. Si nous les avons pratiquées, que l'orgueil ne nous élève pas. Fin de citation. Autrement dit, Augustin fait exprès d'employer des exemples antérieurs à l'apparition du Christ, parce que après, son argumentation pourrait être faussée, on peut dire c'est les chrétiens qui, ceci ou cela. Hein. Donc il fait exprès de prendre des exemples avant le Christ pour montrer que tout est extrêmement mélangé. J'ai donc, selon la mesure de mes forces, suffisamment montré pourquoi le Dieu unique, véritable et juste a aidé ceux des Romains qui étaient bons, selon la norme idéale de la cité terrestre, à obtenir la gloire d'un si grand empire. Je répète. Le Dieu unique, véritable et juste a aidé ceux des Romains. J'entends les Romains païens. Hein, a aidé ceux des Romains qui étaient bons, selon la norme idéale de la cité terrestre, à obtenir la gloire d'un si grand empire. Pourtant, il peut y avoir une raison plus secrète, les divers mérites du genre humain que Dieu connaît mieux que nous. Vers quoi Augustin nous achemine-t-il, puisqu'il y a ce mélange? Quelle est la parole qu'il nous dit sur l'aujourd'hui? L'aujourd'hui, c'est un état de mélange. Bon. C'est un état de mélange, mais un état opaque. La leçon de l'aujourd'hui, c'est l'opacité de l'histoire. Dans cet avant-hier, il y avait ces deux cités angéliques. C'est clair dans la construction intellectuelle. Ces deux cités angéliques ont conditionné notre histoire humaine. Et donc, parler des deux cités angéliques, c'est parler de l'aujourd'hui. C'est parler de l'archéologie du désir. C'est parler aussi de la contiguïté. Et cette contiguïté de l'aujourd'hui rend cet aujourd'hui opaque. Car tous les actes humains sont situés sur la frontière, précisément. Qu'est-ce à dire par voie de conséquence, sinon que la frontière entre les deux cités, voilà la parole sur l'aujourd'hui, c'est la frontière entre les deux cités, angélique ou humaine, etc., la frontière entre les deux cités ne passe pas entre les individus, elle ne passe pas entre les systèmes politiques, elle passe au milieu du cœur de chacun d'entre nous. et surtout qu'avant l'après-demain de l'histoire, individuelle ou collective, nul ne peut savoir où elle se situe. Si elles le sont sur l'après-demain, c'est bien que réfléchir sur l'après-demain nous renvoie à l'opacité de l'aujourd'hui. Voilà ce qui nous achemine vers une petite amorce de conclusion. Je rappelle très brièvement, mais vous le savez, nous le savons tous, il faut peut-être le rappeler, Augustin précise bien que la frontière entre les deux cités, cité terrestre et cité de Dieu, là, je rappelle, c'est pas l'ouvrage, ce sont des concepts opératoires d'histoire. La frontière entre les deux, elle ne passe pas entre des réalités concrètes. Elle ne passe pas entre l'Église et l'État. Elle ne passe pas entre les chrétiens et les païens. Elle ne passe pas entre les individus. Elle ne passe pas entre les systèmes politiques. Et c'est là qu'il faut bien distinguer la théologie augustinienne de l'augustinisme médiéval qui va associer au début du XIe siècle la cité de Dieu à l'Église. Ce n'est pas l'Augustin, ça. Hein. C'est contraire absolument à la pensée d'Augustin. On va dire la cité de Dieu, la cité céleste est représentée par l'Église, c'est le spirituel, la cité terrestre, c'est l'État et le temporel. C'est une invention du XIe siècle, ça. Augustin n'a jamais dit cela, il s'est fondamentalement opposé à cela. Donc, je reviens, donc, nul ne peut savoir où se situe la frontière. En guise de conclusion, quel est au sens conscient, si vous voulez, de forme symbolique? Quelle est la forme symbolique qui irrigue toute cette réflexion sur les deux cités? Vous avez pu remarquer que j'ai fait allusion, une allusion rapide, une allusion que j'aurais pu faire beaucoup plus longue, ça aurait duré des heures, sur les rapprochements entre la théologie manichéenne et la théologie de la cité de Dieu. Alors, on a reproché à Augustin, d'ailleurs c'est ce qui traîne partout, n'est-ce pas ? On a dit finalement Augustin était très marqué par la théologie manichéenne parce qu'il y a le bien et le mal, il y a les deux cités, etc. Alors, moi, je suis désolé, parce que si chaque fois qu'on dit le bien et le mal, on est manichéen, alors vous comprenez, bon, ben, Bush, il dit bien l'axe du mal, il n'est pas manichéen pour autant. Bon, ben. La théologie manichéenne, c'est une théologie de la proto-histoire comme transcendantale, c'est ça. C'est un mal déjà là, qui est à la lisière de la contiguïté du moi et du non-moi, c'est ça le manichéisme, c'est pas le bien et le mal. Tout le monde parle de bien et de mal sans être bon. Mais alors, à considérer nos approches, qu'il s'agisse de l'avant-hier, de l'après-demain qui lui rend son écho ou de l'aujourd'hui, objet de toute parole sur le temps, il y aurait une erreur de perspective à ne pas commettre, ce serait d'hypertrophier l'influence de la théologie manichéenne sur la cité de Dieu. Nous allons réfléchir 2 secondes. Quelle est la forme symbolique qui structure ces deux regards ? Le regard de la théologie manichéenne avec ces deux royaumes se mélange en attendant la fin. Et ces deux cités, ça commence par les deux cités angéliques, ensuite il y a tout ce mélange ici-bas, on ne peut pas déceler la frontière entre le bien et le mal, dans même au cœur de chacun, on ne sait pas où est la frontière, en attendant les fins dernières, le jugement dernier, etc. Quelle est la forme symbolique qui structure, vous avez tous compris, la forme symbolique qui structure cela, c'est la parabole du bon grain et de l'ivraie. Cette parabole du bon grain et de l'ivraie, c'est l'un des textes constitutifs de la théologie manichéenne, comme aussi c'est le texte sous-jacent dans la trame temporelle implicite des confessions. Et donc au lieu de dire... Vous voyez, tout à l'heure, j'ai fait exprès de voir des rapprochements, théologie manichéenne, théologie augustinienne. Donc, en fait, il faut chercher la source commune, la source commune, c'est la parabole du bon grain et des livrées, qui est déjà dans la trame temporelle implicite des confessions, elle est dans la trame explicite de la cité de Dieu. Je vous la relis très rapidement, vous la connaissez parfaitement, c'est Matthieu 13, 24, 30. Jésus proposa à ses disciples une parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les hommes dormaient, son ennemi est venu. Il a semé à son tour de l'ivraie au beau milieu du blé et il s'en est allé. Vous connaissez parfaitement le texte, je vais rajouter un petit commentaire. Le maître du champ sème du bon grain. Pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu, il a semé à son tour de l'ivraie. Les gens dormaient, donc ils y sont pour rien dans les semailles. Pas eux qui ont semé les semailles. L'ennemi est venu, il a semé de l'ivraie au beau milieu du blé, il s'en est allé. Quand le blé est monté en herbe et puis en épi, alors l'ivraie est apparue aussi. S'approchant, les serviteurs du propriétaire leur dirent, cette fois-ci les serviteurs sont réveillés, hein. L'homme est entré dans l'histoire, le mal était déjà là. Bien. Et ils disent, maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ, d'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie? Et l'autre lui dit, c'est quelque ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent, veux-tu donc que nous allions la ramasser? Non, dit-il. Vous risqueriez, en ramassant l'ivraie, d'arracher en même temps le blé. On ne peut pas distinguer entre les deux. C'est clair, hein? Non, vous risqueriez, en ramassant l'ivraie, d'arracher en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. La moisson, je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est l'après-demain. L'avant-hier, le maître sème le blé. Hier, les serviteurs s'aperçoivent, le blé monté en herbe, l'ivraie est apparue. Non. Le présent, est-ce qu'on arrache? Non, surtout pas. C'est du mélange, opaque, indiscernable. Laissez l'un et l'autre croître ensemble, et au moment de la moisson, je dirai, après-demain, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en bottes que l'on fera brûler. Quant au blé, recueillez-le dans mon grenier. Et c'est clair qu'Augustin ait connu cette parabole, il n'y a pas de problème. Ce que je n'ai pas le temps de vous montrer, c'est que les deux textes fondateurs de la théologie manichéenne, c'est Matthieu 13 et l'Épître aux Romains, chapitre 7. Ce n'est pas du tout une théologie iranienne. Le manichéisme se situe dans le sillage direct de l'apocalyptique judéo-chrétienne. Bon, ça c'est une autre question. En dernier ressort, que nous dit donc c'est la cité de Dieu, l'ouvrage, sur cet après-demain qui ne fait que renvoyer à l'aujourd'hui. Essentiellement, donc, c'est que ces appellatifs cité terrestre, ne sauraient correspondre à des réalités historiques, voire à des personnes ou à des événements. Cité terrestre, cité céleste, ce sont des concepts opérateurs de l'histoire. Ce sont les mobiles. Les doubles mobiles de l'action humaine, après avoir été les deux mobiles dans les cités angéliques. Nous sommes dans l'opacité. À l'image de l'histoire, son champ d'application, l'éthique n'est donc pas totalement transparente. Je cite cette phrase que j'aime beaucoup dans la Cité de Dieu 5:21. C'est une tâche bien lourde et qui dépasse infiniment nos forces, que de chercher à pénétrer les secrets des hommes et à juger par une analyse transparente les mérites des empires. J'ai relu cette phrase, je la trouve extraordinaire. Hein. C'est une tâche bien lourde et qui dépasse infiniment nos forces que de chercher à pénétrer les secrets des hommes et à juger par une analyse transparente les mérites des empires. Fin de citation. Et donc, si tu souhaitais, Jean-Marie, qu'on finisse sur une note un petit peu optimiste, je reviens à ma grande ligne que j'ai fait, dans laquelle j'ai fait une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'avant-hier, c'est l'archaïque, cet archaïque mystérieux à la lisière du moi et du non-moi, cette archéologie du désir. L'aujourd'hui, c'est la surface. L'après-demain, c'est l'en haut. C'est peut-être l'attente d'une transparence. Mais il est vrai que une lecture un tant soit peu attentive de la cité de Dieu nous délivre sans doute une parole cachée sur l'archaïque de l'aujourd'hui. Mais il laisse cet après-demain un peu mystérieux. Mais après tout, n'est-ce pas préférable de laisser le dernier mot au silence? C'est là que je vais m'arrêter. Merci.